un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Avec Karine Leloët. La scène se passe dans un ascenseur. Ce jour-là, Craig Schwartz, un marionnettiste raté aux cheveux gras et aux lunettes sales, a rendez-vous pour décrocher un boulot alimentaire chez Lester Corp, une entreprise qui a ses quartiers dans un immeuble de Manhattan, au 7e étage et demi. Sauf que sur les boutons de l'ascenseur, justement, il y a bien un 7, un 8, mais rien entre les deux. À l'aide d'un pied de biche, une employée force pour lui l'accès à ce demi-étage, labyrinthe de couloirs et de bureaux compactés, imaginé par un PDG soucieux, je cite, de plafonner les dépenses. Ici, les gens se déplacent tête de biais et jambes fléchies. C'est ainsi que Craig pénètre le monde absurde et délirant imaginé pour ce film par le scénariste Charlie Kaufman et qui le mènera tout droit dans la peau de John Malkovich. Les ascenseurs sont matière à intrigue. Dans ces espaces réduits où l'on est condamné à attendre, la vie est comme condensée. On se fiche quand un chef passe la porte, on rougit quand un crush nous sourit. On s'engueule, on s'embrasse et parfois on reste coincé, pour le meilleur mais plus souvent pour le pire. Dans les quartiers populaires, souligne un article de nos confrères de France Info, les pannes d'ascenseurs empoisonnent de plus en plus la vie des habitants. La faute à un parc d'appareils vieillissants, à la pénurie de pièces de rechange et à la baisse des effectifs de techniciens. C'est en tout cas ce qu'explique Michael Vaz de Plus Sans Ascenseur, un collectif qui réclame le droit à la mobilité verticale pour les plus âgés, les femmes avec poussettes, les personnes handicapées. Parce qu'un ascenseur, ça peut être romantique, mais c'est aussi très politique. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, trois histoires d'ascenseurs recueillies par Alice Milo.
Je m'appelle Vincent, j'ai 55 ans. J'habite Saint-Ouen dans une tour de 18 étages et je suis là depuis 95 ans. Et le 25 mai 2014, c'est comme si ma vie s'était arrêtée. Je suis remonté de course ce jour-là et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose, donc je suis redescendu. Enfin, j'ai voulu redescendre. Comme l'ascenseur était à l'étage, je l'ai pris. Et en redémarrant du 8e, on a entendu un grand claquement métallique et là, la cabine, elle a accéléré, elle a fini en bas. Honnêtement, il y aurait pu avoir un mort. Moi, j'ai hurlé « Accrochez-vous, on tombe, ça va taper ». C'est tout ce que j'ai eu le temps de dire. On était une dizaine ou une douzaine, dont des enfants. Moi, j'ai été projeté en l'air à une hauteur de 1 mètre et je suis retombé sur les reins. Voilà, et dans un grand fracas, et tout le monde empilé les uns sur les autres, et beaucoup de douleur. Il y a des pièces métalliques qui sont tombées sur le toit de la cabine. On a même cru qu'on allait prendre le moteur, donc on a eu très peur quand même. Puis voilà, quoi, on n'a pas le temps de réfléchir en fait. On a juste le temps de s'accrocher. Parce que comme je vous dis, moi j'étais projeté à 1 mètre du sol, du fait que à l'emplacement où je me trouvais dans la cabine, ça correspondait au plot d'amortissement au fond de cage d'ascenseur. Donc ça a fait flipper, quoi. Là, je me suis pris l'espace d'un instant pour la bille du flipper. Et quand j'ai voulu me redresser, j'ai remarqué que ma cheville droite, elle avait triplé de volume. J'avais un donut à la place de la cheville. Et quand j'ai voulu poser mon pied pour me remettre debout, impossible, quoi. J'avais des trop de douleurs dans les deux pieds, je pouvais pas me tenir debout. Des voisins qui attendaient l'ascenseur au rez-de-chaussée, ils ont vu un nuage de poussière entre les portes de la cabine. Et donc ils ont compris qu'il y avait un souci, ils ont appelé les pompiers tout de suite. J'étais le plus touché, et puis j'étais en fond de cabine, donc ils ont sorti tous les gens qui étaient devant moi d'abord. Moi, ils m'ont sorti le dernier. Puis quand ils ont compris qu'il y avait opération, ils m'ont emmené direct sur Bichat, quoi. Ils m'ont opéré, ils m'ont rien dit de spécial. Bon, et puis j'ai compris tout de suite que j'allais être opéré. Mais la question du handicap, pour moi, elle s'est pas posée tout de suite. Elle s'est posée après l'opération, quand j'ai commencé à avoir le détail par les médecins de ce qui m'arrivait, quoi. Puis malheureusement, il s'est avéré que la fracture n'était pas belle et que maintenant j'ai des séquelles à vie. Et donc depuis, c'est marche avec des cannes anglaises et je peux pas faire autrement, quoi. C'est un calvaire. C'est douleur du matin au soir. Dès que je pose les pieds au sol le matin en me levant, c'est la journée de douleur complète jusqu'à ce que je me recouche le soir. Ça fait 5 ans que je ne travaille plus. Fatalement, je me suis retrouvé sans revenu, juste avec le revenu de mon épouse, qui est la SS. 400 et des brouettes, quoi. Donc fatalement, pas possible de payer les loyers. Et on m'a mis en mesure d'expulsion. pour non-paiement de loyer. Et donc la seule solution, c'était le surendettement à la Banque de France. Et heureusement, ils ont accepté mon dossier tout de suite, et ce qui fait que ça a bloqué tous les huissiers. Autrement, à l'heure actuelle, je serais à la rue avec mon épouse. Ça m'a quand même bousillé ma vie, du fait que je travaillais dans la restauration et que mes jambes, c'était mon métier, et que voilà, c'est terminé, quoi. Mes jambes ne me servent plus à rien, malheureusement. C'est un métier que j'ai choisi, ça faisait 36 ans que je faisais ça. Donc ouais, c'est quelque part, c'est... On se sent diminué, en fait. On se sent diminué, on se sent mis à l'écart. Et puis, le fait de se retrouver invalide comme ça, du jour au lendemain, de plus pouvoir bosser, de plus pouvoir rien faire, ou alors tout dans la souffrance, c'est un gros préjudice. Ça vous bousille la vie, quoi. Voilà, ça a foutu la misère dans mon couple également. Parce que du jour au lendemain, elle m'a sans arrêt sur le dos, que je peux plus faire ce que je faisais avant. Donc les tâches quotidiennes, j'essaye de faire ce que je peux, mais il est vrai qu'avec les douleurs que j'ai, je suis très vite en incapacité. Donc ça clash, fatalement. On s'engueule. Donc suite à l'accident, j'ai rencontré mon bailleur et j'ai essayé de voir avec eux comment on pouvait procéder pour faire fonctionner les assurances. D'après les dires de mon bailleur, leurs assureurs ont décrété qu'ils n'étaient pas responsables de cet accident et donc qu'ils n'avaient pas à payer. Je me suis dit, vous êtes bien gentil, mais je ne vais pas me laisser faire. Donc là, oui, effectivement, j'ai pris la mesure de porter plainte contre ces gens-là et d'essayer d'obtenir réparation. Mon bailleur la société qui entretient les ascenseurs, chacun de leur côté, personne n'a voulu prendre ses responsabilités. Donc on a essayé de nous mettre ça sur le dos en disant qu'on était trop nombreux dans l'ascenseur, comme quoi c'était une mauvaise utilisation des appareils. Et puis il s'est avéré que ça n'avait rien à voir, puisque c'est un câble de traction qui est sorti de sa poulie et qui a lâché. Moi, à mon avis, je pense que les bailleurs ne payant pas les factures d'entretien, les ascensoristes font, quand ils se déplacent, mettre des pansements au lieu de faire le boulot et de changer les pièces. Ils font du bricolage. C'est les logements sociaux, quoi. On s'en fout. Ils sont pas là pour aider les gens, c'est une question d'argent, eux. C'est pas un accident, mon accident c'est un manque d'entretien des appareils. Il y a eu un mauvais entretien des appareils. Moi j'avais demandé l'aide juridictionnelle donc pour pouvoir prendre un avocat parce que malheureusement mes finances ne me le permettaient pas. Et cet avocat, moi je lui ai fait confiance. Je pensais qu'il faisait son travail et qu'il s'occupait de mon dossier. Il s'est avéré qu'en fait il m'a baladé pendant 5 ans. J'ai appris après, malheureusement, qu'il était régulièrement embauché par la partie adverse. Donc je pense qu'on lui a demandé gentiment de faire blocus, quoi. Je l'ai compris quand j'ai rencontré les gens du collectif Sans Ascenseur et qui m'ont présenté leur avocat qui a accepté de reprendre mon dossier. Et donc lui m'a dit que quand il a récupéré les pièces du dossier au premier avocat, il n'avait rien fait du tout. Il n'avait même pas déposé ni enregistré de plainte auprès du commissariat. Donc il attendait tout bêtement la prescription de l'affaire de façon à ce que je ne puisse pas me battre contre personne, je ne puisse pas réclamer quoi que ce soit et que je me retrouve comme un malheureux, quoi. Je suis en colère parce qu'on nous prend vraiment pour des moins que rien. Et puis oui, j'ai la haine contre eux, ça c'est clair, j'ai la haine contre eux. J'ai qu'une envie, c'est d'être indemnisé, de partir m'installer à la campagne. Voilà, pour être tranquille. Pour recommencer une nouvelle vie, en fait. Parce que là, je veux effacer ce que j'ai vécu ici. C'est bon, je tire un trait. Donc, dès que je monte dans une cabine d'ascenseur maintenant, c'est un réflexe conditionné. Je suis à l'affût du moindre bruit, du moindre grincement, du moindre cliquetis bizarre. Et j'ai une angoisse et un serrement au ventre, quoi. J'avoue que j'ai une peur panique des ascenseurs, maintenant. Mais il n'y a pas le choix. Il faut faire avec, il n'y a pas le choix. On peut pas. J'évite de monter plus haut que mon étage maintenant. Quand je vois que ça va monter plus haut, j'attends qu'il repasse.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme et je travaille donc dans une maternité parisienne. Et à cette époque-là, il se trouve que je n'étais pas en salle d'accouchement. J'étais dans le service des suites de couches. Le service de suites de couches, c'est un service d'hospitalisation, donc, où on met, entre guillemets, les femmes qui ont accouché, ou les femmes, des fois aussi, qui sont hospitalisées pour des grossesses pathologiques. Ou, troisième possibilité, qui attendent d'accoucher et qui sont en instance d'accouchement, mais qui sont, pour lesquelles ce n'est pas encore tout de suite dans la minute. Et donc, ce jour-là, donc, on m'avait envoyé de la salle d'accouchement, des urgences en fait, une patiente qui avait juste, entre guillemets, juste perdu la poche des os, mais qui était très peu dilatée et qui donc devait patienter que les contractions viennent, ou en tout cas se rapprochent et se régularisent. Et donc, elle était hospitalisée dans un service de suite de couches. C'est un couple, je me rappelle bien, assez, pour moi, rigolo, parce que ultra cartésien, ultra scientifique. C'est des ingénieurs qui travaillent sur les marchés financiers. Et donc, je vais les voir, je leur dis, bah, vous me rappelez quand les contractions sont plus douloureuses, je les préviens des signaux d'alerte pour lesquels il me faut me rappeler. Je repars de leur chambre. Et puis, je me fais rappeler par l'infirmière qui me dit « Ah oui, il y a le couple qui veut que tu retournes les voir parce que les contractions se sont intensifiées. » Donc, je monte tranquillement. C'est un premier bébé. Normalement, il n'y a pas vraiment le feu au lac. Les choses ont le temps de se décanter tranquille. Et là, je l'examine. Donc, j'arrive dans la salle, je l'examine. Et je m'aperçois qu'elle est quand même à 6 cm. Et surtout que la tête, quand même, est assez appuyée. C'est un bébé assez volontaire. On peut dire ça comme ça. Donc je dis, bon, bah là, il faut vraiment descendre en salle d'accouchement, il n'y a aucun doute sur la question. Donc, et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je chantais de façon claire que l'accouchement allait se passer rapidement. En tout cas, j'ameute le banc et l'arrière-banc, chose que je ne fais pas toujours. C'est-à-dire que je décide déjà de la descendre en brancard, ce n'est pas toujours le cas. Je décide que j'ai envie d'avoir une infirmière et une aide-soignante avec moi, allez savoir pourquoi. Alors que vraiment, dans situation similaire, je n'aurais pas fait la même chose d'habitude, quoi. Et en plus, je demande un kit d'accouchement et une paire de gants à l'aide-soignante qui va m'accompagner. Et puis, évidemment, elle me dit, mais enfin, elle me regarde genre, mais bon, Anna, ok. C'est vraiment absurde ce que tu me demandes, puisque de toute façon, on est en salle d'accouchement en 4 minutes. Mais elle a confiance en moi et du coup, elle le fait. Donc voilà tout ce petit monde. Donc le père, la maman, enfin, futur père, pardon, future maman, moi, l'aide-soignante et l'infirmière, on monte tous dans l'ascenseur avec un brancard, donc avec la femme sur le brancard. Et là, je sens que la femme, elle commence à émettre des sons qui sont ceux qu'on émet en fin de travail. Et l'ascenseur s'arrête. Et je me dis... c'est pas possible. Je suis un peu sidérée, je me dis, mais l'ascenseur est bloqué, là. Réellement, l'ascenseur est bloqué. Les gens me regardent comme si c'était moi le pilote dans l'avion. Alors, je ne suis pas le pilote dans l'avion. Je ne sais pas plus que vous. Donc j'appuie sur vous savez, le petit symbole de la cloche dans l'ascenseur, et là, assez rapidement, il y a une petite musique, ding, 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 ding. Et donc il y a une standardiste de la compagnie d'ascenseur, donc j'imagine qui est assez loin de nous géographiquement, voilà, qui nous répond, et s'amorce le dialogue avec elle. La femme se met à hurler, elle nous dit, mais enfin calmez-vous, et je dis, mais il y a une femme qui est en train d'accoucher dans l'ascenseur, il faut que ce soit rapide. Et je pense que la nana n'y croit pas. Elle pense qu'on se fout de sa gueule, quoi. Peut-être qu'elle est sidérée, en fait, tout simplement. Elle ne croit pas à notre histoire et elle reste dans un cadre ultra normé de... Il faut patienter. Enfin, exactement comme on entend, vous savez, quand on demande un dépannage d'ascenseur dans un truc normal. Bref, elle nous est d'aucune utilité, cette femme, parce qu'elle ne peut rien faire, puisqu'elle nous propose des secours, mais en 30, 45 minutes, je ne sais pas quoi. Enfin, totalement pas adaptée. Et puis, bah, y a ma patiente qui se met à accoucher et qui dit qu'elle ne veut pas accoucher, évidemment, dans cet endroit, ce que je comprends, mais je n'ai pas d'autre solution à lui offrir. Les sages-femmes savent, hein, avec les sons que les femmes émettent, on sait à peu près à quel stade de la dilatation les femmes en sont. Et là, ce son, hein, cette espèce de râle avec un fond de poussée dedans, je me suis dit, bon, bah voilà. C'était un petit qui plongeait dans le bassin, donc je me dis, bon, ok, on va faire l'accouchement ici. C'est-à-dire qu'il y a un moment, juste avant, je me dis, non, je refuse de faire cet accouchement ici. Puis à un moment, je me dis, bon, Anna, tu te calmes, il faut faire cet accouchement, voilà, point. L'infirmière a un très très bon réflexe, c'est qu'elle, quand elle voit qu'on est coincé, elle prend mon bip. Les sages-femmes ont ce qu'on appelle des bips, c'est des appareils de téléphone qui nous permettent d'appeler partout dans l'hôpital et d'être appelés. Et donc, elle contacte évidemment le personnel de la salle d'accouchement, et même le personnel des autres étages. elle sous-entend, je me rappelle qu'elle sous-entend, je sais plus ce qu'elle dit, mais elle sous-entend qu'on n'a rien, qu'on est dans un ascenseur et qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de gants, qu'on n'a pas de matériel, qu'on n'a rien. Voilà, qu'on est juste à poil. Elle dit, on a Anna avec nous et on a une patiente qui accouche. Elle dit très peu de choses en fait. Je sais qu'ils ont essayé de nous faire un soutien psychologique. Comme on est entre deux étages, on entend parfaitement ce qu'ils nous disent. Mais en fait, je ne les écoute pas. On reprend, je me ressaisis et je ressaisis la patiente qui, elle, partait aussi dans les tours, ce qui est normal. Hein. Alors, ce qui est drôle, c'est que cet ascenseur, bon, c'est des grands ascenseurs hein, hospitaliers, donc ils sont très grands. Mais entre le brancard, moi, le père et l'aide-soignante et l'infirmière, on est très, très à l'étroit. Ça donne une sensation de confinement. C'est presque ça qui fait peur aussi. Ça nous arrive en fait très souvent de faire des accouchements qu'on appelle inopinés, vous savez, sur les parkings, dans les voitures ou un peu partout. Mais là, c'est ce manque de capacité à agir, d'aller se déplacer dans une salle d'accouchement qu'on reste coincé. Je ne sais pas pourquoi je me dis, mais on va être coincé combien de temps et puis oui, de faire un accouchement, je me dis, bon, si jamais il y a un souci, on n'est quand même pas à l'aise, quoi. L'infirmière, l'aide-soignante et le papa sont complètement hors jeu. L'infirmière me dit non, mais tu vas pas faire l'accouchement ici. Je dis, comme si j'avais le choix. Enfin, je la regarde, genre, mais oui, moi non plus, j'ai pas envie. Parce que la femme se disperse, évidemment, elle dit non, je vais avoir une péridurale, au secours, laissez-moi, c'est pas possible, jamais. Et ce que je comprendrais bien, je lui dis bon, on se recentre et on arrive à faire un super travail toutes les deux. On se reconcentre, on se tient l'une avec l'autre par le regard. Et elle pousse et elle accouche superbement. Si ce n'est qu'effectivement, il y avait un petit circulaire serré, c'est-à-dire que le cordon qui était vraiment serré autour du cou, et que j'ai besoin de le couper, le sectionner avec deux clans et un ciseau. Et heureusement, j'avais ce fameux kit d'accouchement qu'on m'avait gentiment apporté. Et donc c'est assez drôle parce que je pose le bébé, et là, quasiment deux secondes après, les portes s'ouvrent, et là, il y a sept personnes de l'équipe prêtes à intervenir qui nous font face. Et voilà, le petit était né dans l'ascenseur. Dans cet ascenseur, c'est ça qui paraît dingue, c'est qu'en fait, on n'a pas dû rester coincé plus de 20 minutes maximum. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on y a vécu deux vies là-dedans. Et puis moi, c'est un peu comme après des grandes... Moi, c'est ça que j'adore, c'est l'accouchement d'ailleurs, c'est les grandes montées d'adrénaline et après les descentes, donc avec les jambes qui flageolent, les tremblements qui viennent, toutes fébriles, on va dire. Incroyable, c'est que c'est une future maman et un futur papa qui, dans leur vie, ont tout maîtrisé jusqu'à maintenant. Et je trouve que c'est quelle entrée dans la parentalité que cet enfant qui, justement, va leur rappeler dès le début, quoi, que non, avec moi, désormais, avec moi, enfant, vous n'allez plus rien maîtriser de votre vie. Et ça, je trouvais ça assez spectaculaire et assez rigolo, en fait. A posteriori, bien sûr, mais c'était dingue. C'est-à-dire, l'enfant vient leur dire, bah non, votre vie désormais. Et je pense qu'elle le comprend immédiatement. Elle se dit, ok, ça y est, je ne vais plus rien gérer. Elle a accepté qu'elle allait accoucher là. Mais vous savez, les femmes sont très puissantes. Très, très, très puissantes.
Je m'appelle Baya, je suis assistante maternelle depuis 12 ans et je vis sur Romainville, en Seine-Saint-Denis, avec mes deux enfants, Mehdi qui a 21 ans et Assia qui a 14 ans. Voilà, je vis dans un immeuble de 9 étages depuis plus de 8 ans. Ici, c'est un logement social dont le bailleur est Seine-Saint-Denis Habitat. Alors, quand je suis arrivée dans le bâtiment, c'était un bâtiment très propre. Le ménage était fait correctement tous les jours. Et au niveau de l'ascenseur, il fonctionnait correctement. Il n'y avait pas de panne. Depuis, petit à petit, le bâtiment se dégrade. Voilà. Et dans le hall, il y a des papiers qui traînent. Le ménage n'est pas fait correctement. Au niveau de l'ascenseur, c'est pareil. Des fois, on trouve les urines des chiens qui sont dans l'ascenseur. Alors, l'ascenseur est en panne régulièrement depuis un an, mais surtout depuis le mois d'août dernier. Il est tombé en panne 3 semaines de suite. Le technicien est intervenu, bon, il l'a remis en fonctionnement. Et c'est vrai que depuis ce mois d'août-là, il tombe toutes les semaines en panne, 2-3 jours dans la semaine. Il y a eu des fois même où je suis restée bloquée dans l'ascenseur, Dernièrement, c'était le mois dernier, il me semble. Je suis restée 1h30 dans l'ascenseur bloqué. Donc moi, je suis assistante maternelle agréée par le Conseil Général. J'ai un agrément pour 4 enfants. Du coup, je travaille à mon domicile. J'accueille le matin à 8h les 4 enfants à mon domicile. Cet ascenseur qui est en panne constamment, ça impacte surtout notre travail. Ça m'empêche, avec les enfants, de pouvoir profiter de toutes ces activités à l'extérieur. Comme le jeudi, on va au relais assistante maternelle. Le mardi, c'est le bébé gym. Et on a les petites sorties à l'extérieur, le parc, ou aller chez les unes, chez les autres, pour faire des petits ateliers. Voilà, du coup, on est obligé de rester à la maison. Bon, on s'occupe, c'est pas le souci. Mais c'est aussi... ça nous pénalise beaucoup, ça pénalise beaucoup aussi les enfants. Les activités qu'on a prévues à l'extérieur, du coup, on est obligé de les annuler, parce qu'on peut pas faire autrement. Quand l'ascenseur est en panne comme ça, ça nous oblige de monter 3, 4 fois, 5, même 6 fois 8 étages. On remonte, on descend avec les enfants. Et c'est vrai que les enfants, surtout les bébés, ils sont quand même assez lourds. Pour notre dos, c'est pas facile. Parce que du coup, pour continuer dans ce travail, on est obligé de se préserver. Et de faire tous ces efforts-là quotidiennement, ça devient compliqué. Il y a une solidarité qui s'est organisée entre moi et mes deux collègues de palier, qui sont aussi assistantes maternelles. Quand l'ascenseur est en panne, on réfléchit même pas, on est organisé. C'est soit ma collègue reste à la maison et les deux autres vont récupérer les enfants en bas, on les remonte. Ensuite, on s'entraide parce que les enfants n'arrivent pas toujours à la même heure. Du coup, voilà, il y en a toujours une qui reste à la maison pour pouvoir faire attention aux enfants et les deux autres vont récupérer les enfants en bas. Si vraiment j'avais pas mes collègues près de moi, je serais dans l'obligation de demander aux parents de monter. Et c'est vrai que ça, c'est pas terrible parce que les parents, ils sont pas obligés de supporter ça. Donc c'est pour ça que ça me met un peu mal à l'aise. J'accueille 4 enfants et leurs parents sont mes employeurs. Et je pense que s'ils auraient su que l'ascenseur tombait fréquemment en panne, s'ils auraient su dès le départ, je ne pense pas qu'ils m'auraient laissé. Je ne sais pas, je sais ce que je me dis, mais je ne pense pas qu'ils m'auraient laissé accueillir leurs enfants comme ça. Je pense que ça aurait été un frein pour eux. Et on a surtout peur de nous faire retirer l'agrément. Parce que c'est vrai que si on a un contrôle de la péricultrice, je risquerais de perdre la garde de plusieurs enfants. Et du coup, le salaire, automatiquement, voilà, serait plus bas. Il y a eu des personnes qui sont restées bloquées dans l'ascenseur. Moi, en l'occurrence, je suis restée bloquée une fois avec le petit garçon que j'accueille de 2 ans. Oui, je suis restée bloquée 20 minutes. Et en même temps, la maman est montée par les escaliers et j'essayais aussi de rassurer la maman, qui n'était pas très tranquille. Donc on a chanté des chansons, on a fait des comptines et voilà. C'est juste que quand il a entendu maman derrière l'ascenseur, il a commencé à pleurer. Voilà. Et après, heureusement, après 20 minutes, le technicien est intervenu pour nous faire sortir de l'ascenseur. Nous, le locataire, quand il y a une panne, voilà, on est les uns les autres à appeler la société Coné, qui est l'ascenseuriste, pour les faire bouger, en fait. Du coup, on les relance comme ça à chaque fois. Et à chaque fois, ils se lancent la balle. Soit c'est une pièce qui manque, c'est toujours la même chose. Là, en fait, là, comme en l'occurrence, là, maintenant, ça fait 3 jours qu'il est à l'arrêt. Il devait recevoir la pièce aujourd'hui. Donc je l'ai rappelé, on les a rappelés aujourd'hui. Et en fait, la pièce n'est pas arrivée. Donc on est obligé de rester comme ça ce week-end sans ascenseur. Voilà. La seule chose qu'on peut faire, c'est de les rappeler constamment. Mais bon, à chaque fois, je trouve que ça ne bouge pas assez, quoi. Il est prévu que l'ascenseur soit changé complètement. Il me semble que c'est 28 000 euros. Donc je ne sais pas s'ils ont les fonds, je ne sais pas si le devis a été validé. Voilà, on attend. Alors on ne sait pas, on n'a pas d'informations, voilà. J'ai des doutes sur le fait qu'ils vont vraiment le faire, parce que comme l'immeuble est prévu d'être démoli entre 2022 et 2025, voilà, je pense qu'ils jouent beaucoup sur ça. Ils ne vont peut-être pas se donner la peine de vouloir changer l'ascenseur. Ils nous laissent espérer plein de choses. Et voilà, nous, en tant que locataires, c'est vrai que c'est au quotidien, c'est très compliqué.
C'était Ascenseur en panne, un reportage d'Alice Milo diffusé pour la première fois le 8 janvier 2020 et réalisé par Yaël Mandelbaum avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Merci au collectif Plus Sans Ascenseur, à Steve et à Fouad. L'attachée de production, c'est Céline Paris et notre stagiaire, c'est Flavie Champion.
Une série à la première personne et comme une enquête, Jérôme Sandelar prend la mesure de son apnée du sommeil et en profite pour explorer cet état qui ne va pas toujours de soi.
Perrine Kervran.
Hypersomnie, narcolepsie, somnambulisme, cycle de sommeil, canards qui ne dorment que d'un œil et chambre à coucher, LSD vous aide à vous mettre au lit.
LSD, la série documentaire du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.